Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du wokisme et nous allons surtout expliquer pourquoi derrière cette idéologie qui se veut égalitaire et égalitariste se cache avant tout de l'hypocrisie, de la manipulation et surtout une destruction programmée de la diversité. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le wokisme ? Le wokisme est un dérivé de l'expression anglaise woke qui est le participe passé du verbe wake qui signifie éveiller. Cette expression née aux États-Unis définit quelqu'un qui est sensibilisé aux injustices qui peuvent avoir lieu autour de lui. Injustice sociale, racisme, homophobie, enjeux climatiques, souffrance animale, etc. On utilise souvent cette expression par opposition à être endormi face aux enjeux de notre société et notamment la question centrale du racisme et des minorités. Cette expression ou ce mot « woke » a largement été popularisé lors des manifestations des Black Lives Matters aux États-Unis. Si son sens premier est jugé positivement, il a depuis pas mal dérivé, nous allons dire. Si le wokisme peut toujours avoir cette dimension de lutte contre les inégalités, il agglomère aussi des choses très différentes et certains diront moins pertinentes, comme l'écriture inclusive, les études de genre, la remise en cause de certaines figures historiques, etc. Et la réécriture de l'histoire ou l'effacement de l'histoire est l'un des premiers exemples que je souhaitais citer pour illustrer les dérives du wokisme. Vous savez que pendant les manifestations des Black Lives Matter à Londres, il a été question de déboulonner la statue de Churchill sous prétexte que Winston Churchill aurait prononcé à un moment de sa vie un discours raciste où il aurait tenu des propos racistes. Alors je vous avoue que je n'ai même pas voulu aller chercher tellement j'ai trouvé cette histoire absurde. La chose avec l'histoire, c'est que je pense personnellement qu'il ne faut pas changer l'histoire, qu'il ne faut pas effacer l'histoire, qu'elle nous plaise ou pas. La raison pour laquelle les humains ont une mémoire et la raison pour laquelle les humains se souviennent du passé, c'est qu'on apprend du passé. On aurait pu imaginer que l'évolution nous aurait dépourvus de mémoire. Finalement, l'évolution ne conserve que les choses utiles à notre survie. Et si les humains ont une mémoire, si on se souvient du passé, il y a une raison pour ça. Et la raison centrale, c'est d'éviter de refaire, de reproduire les erreurs du passé. On apprend de nos erreurs. Et vouloir effacer le passé, c'est vouloir effacer nos erreurs et c'est prendre le risque qu'on les reproduise. J'ai envie de dire que Churchill ait prononcé ou ait tenu des propos racistes, on s'en fout parce que ça ne change rien à la grandeur du personnage, ça ne change rien à ce qu'il a fait. Pour rappel, pour mémoire, Churchill est le seul à s'être dressé et le premier à s'être dressé face aux nazis à un moment où les pays européens s'effondraient les uns après les autres, semaine après semaine. Le premier mur contre lequel les Allemands ont buté, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. Et un auditeur m'a dit une fois, l'Observateur, tu fais l'éloge de l'Angleterre qui aurait tenu tête à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais n'oublie pas que l'Angleterre est une île que les chars ne peuvent pas traverser la Manche. Alors, merci pour cette remarque, j'avais constaté que l'Angleterre était une île. Mais je vous rappelle tout de même que l'Angleterre a été, ou du moins que Londres a été, partiellement rasée. L'est de Londres, la City, a été rasée. C'est pour ça que vous voyez toutes ces tours modernes qui ont poussé un peu partout depuis. Ces tours ont poussé sur les ruines du Londres rasé. L'Angleterre aurait pu capituler, l'Angleterre aurait pu collaborer. Et d'ailleurs, les Allemands qui considéraient les Britanniques comme leurs cousins germaniques, les Allemands avaient moins de mépris pour les Britanniques que pour les Français ou les Russes ou les Slaves ou pour d'autres peuples, parce qu'ils considéraient que les Anglais étaient un peu leurs cousins. Il faut savoir que la monarchie britannique a des origines allemandes. La monarchie britannique descend d'une lignée de germaniques, et c'est pour ça que les Allemands, que les nazis à l'époque, avaient essayé de discuter avec l'Angleterre et avaient tenté même de convaincre les Anglais de les rejoindre. Et pour Churchill, il était hors de question de collaborer avec l'Allemagne nazie, même si beaucoup de politiciens dans son cercle le poussaient à accepter cette collaboration et à éviter le désastre que pourrait engendrer une guerre frontale avec l'Allemagne. Churchill a refusé et il a même prononcé son fameux discours où il s'est adressé aux Britanniques en leur disant « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Il faut savoir que Churchill était un bagarreur dans l'âme depuis tout petit. C'est un mec qui aime la bagarre, qui aime la castagne. Et il était hors de question pour lui de baisser son froc, quitte à voir Londres intégralement rasé. Donc que l'Angleterre soit une île, que l'Angleterre ait eu plus de facilité à lutter contre les nazis en raison de son insularité, c'est une chose, mais on ne peut pas nier le panache des Britanniques à l'époque face à une armée allemande surpuissante qui était en train de tout raser sur son passage. Et une autre raison pour laquelle les Britanniques n'ont pas collaboré avec les Allemands, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était dans la confrontation de deux idéologies économiques radicalement différentes. On avait d'un côté les nazis et le national-socialisme. Il faut savoir que les nazis ne sont pas du tout de droite économiquement. Ce sont des socialistes qui croyaient à l'économie programmée par l'État et contrôlée par l'État. Et d'un autre côté, on avait l'Angleterre qui représentait par la City, au travers de la City, l'économie libérale, le capitalisme. Capitalisme contre lequel les nazis étaient en lutte parce qu'ils considéraient qu'il était à l'origine de la grande crise financière qui a appauvri le monde d'une façon générale et l'Allemagne d'une façon plus particulière. Et même s'il y avait ce lien germanique, ce lien quasi génétique entre les Allemands et les Britanniques, idéologiquement, ils étaient extrêmement différents et il était hors de question pour la City de Londres de collaborer avec les Allemands. Il était hors de question pour l'Angleterre libérale et capitaliste de collaborer avec des national-socialistes. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour dire qu'à un moment, le wokisme va un peu trop loin. Lorsqu'on essaye de modifier une histoire aussi profonde, aussi complexe, aussi riche aussi que la Deuxième Guerre mondiale, et ramener tout ça à des histoires de racisme, de petites phrases qu'aurait pu prononcer Churchill, et vouloir le supprimer, l'effacer de l'histoire, déboulonner sa statue et la jeter dans la Tamise en raison de mots qu'il aurait prononcés. Et c'est pour ça que j'ai aussi dit que je n'ai même pas envie d'aller chercher ces fameux textes ou ces fameux discours racistes que Churchill aurait prononcés, parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien à la grandeur de l'homme politique, ça ne change rien à son panache, ça ne change rien à son courage. Et l'histoire, il faut la prendre avec le bon, avec le mauvais, il faut l'accepter telle qu'elle est parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et peut-être que l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas encore assisté à une troisième guerre mondiale, c'est qu'on connaît les deux précédentes, on connaît la boucherie que ça a été, et notre génération et la génération de nos parents qui connaissent l'histoire, qui savent ce qui s'est passé, ne veulent pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, tout est en place pour l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. On a un monde multipolaire, on a une méga-puissance à l'ouest, les États-Unis, on a une méga-puissance à l'est, la puissance Chine-Russie, on a aussi des armes nucléaires, on en a en quantité suffisante pour faire exploser la Terre plusieurs fois. Et c'est en raison des choses qu'on connaît, c'est en raison du passé qu'on n'a peut-être pas envie d'aller à la castagne, et c'est aussi en raison de toutes ces armes nucléaires. On sait très bien que la Troisième Guerre mondiale sera certainement la dernière. Il faut dire que la dissuasion nucléaire calme beaucoup de monde. Comme le disait Einstein, je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex. La Troisième Guerre mondiale, si elle a lieu, sera la dernière. On le sait collectivement et c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller. On a frôlé cette Troisième Guerre mondiale à plusieurs reprises dans les années 60, pendant la guerre froide. Aujourd'hui encore, tous les jours, il est question de nucléaire, il est question d'arsenal nucléaire russe, arsenal nucléaire américain, qui va frapper le premier ? Toutes les conditions sont réunies. Et il faut se dire que peut-être qu'on ne veut pas y aller aussi grâce aux leçons de l'histoire. en raison de la dissuasion nucléaire surtout, mais aussi parce qu'on connaît les deux précédentes et on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Est-ce qu'on a envie d'y retourner? Est-ce qu'on a envie de reproduire une boucherie comme celle qu'on a connue? L'histoire sert aussi à apprendre de nos erreurs et c'est pour ça qu'il ne faut en aucun cas tenter de la modifier, de la changer, de l'enjoliver pour faire plaisir aux woke ou aux Black Lives Matter ou à je ne sais qui parce qu'ils auraient été offensés par une petite phrase de Churchill qu'il aurait prononcée entre 14h et 15h dans un café, dans un pub, je ne sais où. Arrêtez vos conneries les mecs, ça suffit. Pour parler poliment, vous nous faites chier. Vous faites chier la terre entière. Et on assiste aussi à une réappropriation de ce phénomène woke pour des raisons électorales. Les politiques exploitent aussi le wokisme pour pousser leurs agendas, notamment quelqu'un comme Justin Trudeau. J'imagine que vous n'avez pas raté son apparition en sari lors de sa visite en Inde. Il a en plus imposé ça à sa femme et à ses enfants. Vous regardez la tête de son gamin sur la photo, le gamin se dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et honnêtement, j'aurais été indien, j'aurais pris ça pour une insulte. Le Canadien qui débarque en sari, le Canadien blanc qui débarque en sari chez moi, c'est quoi ton délire? C'est du foutage de gueule tes histoires. Pourquoi tu t'habilles en sari? Tu peux pas venir en costard comme tout le monde? T'imagines Macron qui va rendre visite à Ben Salman en Arabie Saoudite, en djellaba? T'as le roi d'Arabie Saoudite qui lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive Emmanuel? C'est quoi, t'as sorti la djellaba et les babouches? Qu'est-ce qui se passe ?» Macron qui lui répond « Ouais, j'avais un peu chaud au cou, il fallait ventiler le truc. Je me suis dit djellaba, ça sera très bien. Même dans l'avion, c'est très confortable. Hein, les pieds écartés, super. Avec un peu de talc, nickel. » Et à la limite, j'aurais compris l'argument climatique. Il faut savoir que les vêtements traditionnels sont d'abord une réponse climatique. On porte des djellabas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait très chaud. Donc ça te permet de ventiler les couilles, ça te permet de faire circuler l'air. C'est confortable, c'est une réponse au climat. Pareil pour les vêtements des Touaregs dans le désert, ça protège contre le soleil, ça crée une espèce de ventilation naturelle à l'intérieur. Et une réponse comme ça, à la limite, j'aurais trouvé ça moins insultant. Voilà, je me suis rendu dans un pays chaud, j'ai mis une djellaba pour avoir les couilles à l'air, pour être à l'aise. Mais dans le cas de Trudeau, c'est pas ça, c'est de la pure hypocrisie, ça s'inscrit dans sa pleurniche éternelle. Je sais pas si vous l'avez vu aussi au Parlement canadien en train de pleurer pour s'excuser des crimes qu'ont commis les Blancs contre les Indiens d'Amérique. Et avec Trudeau, c'est constamment la pleurniche, on est constamment dans le pardon, dans la repentance. Mais vous aurez compris que tout ça, c'est même pas authentique parce que, à la limite, si le mec était authentique, j'aurais peut-être pardonné ce genre de choses. D'accord, t'es ému, tes ancêtres ont massacré les Indiens, très bien, c'est un génocide. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, j'étais pas là, je suis pas responsable de cette merde. Donc la pleurniche, ça va deux secondes. Mais si t'es émotionnel, si t'as bouffé trop de tofu ou d'estrogène et que ça t'a rendu un peu émotionnel, très bien, je veux bien te l'accorder. Mais Trudeau est un politicard, c'est un politicard, c'est quelqu'un qui est entraîné à ce genre de choses et tout ce qu'il fait, c'est un politicard de gauche, et tout ce qu'il fait, c'est bien sûr pour amadouer son électorat. Lorsqu'il va en Inde et qu'il s'habille en sari, c'est pour sensibiliser les immigrés indiens du Canada. Lorsqu'il pleure pour se repentir des crimes de ses ancêtres, tout ça, c'est politicien. Le Canada est un pays d'immigration. Et s'il peut gagner quelques électeurs, gratter quelques billets en pleurant, en lâchant une petite larme, il va le faire. C'est un politicard professionnel, hein, donc c'est synonyme de menteur, acteur, hypocrite, tout ce que tu veux. Tout ce qu'il fait, c'est une représentation théâtrale, tout ça c'est du théâtre pour lui. Il est au cinéma le mec, dès qu'il se lève le matin, dans son rôle de Premier ministre, il est au cinéma. Et il doit se marrer dans sa tête, hein. Il doit dire à sa femme « Salut chérie, aujourd'hui on joue l'Indien, t'es au courant? Donc tu t'habilles, tu mets le pyjama bariolé là. » Sa femme lui répond « Ah bon, on va où? New Delhi, Bombay? Je sais pas, c'est le même truc. On prend l'avion, je te dirai plus tard. » Et bien sûr, le wokisme est en train de devenir une vraie religion, une religion avec des croyances et avec des sous-religions. Donc vous aurez bien sûr la sous-religion dominante, hein, la question du racisme et des minorités. Vous avez la question bien sûr du genre, du LGBT. Vous avez l'éternel débat de l'égalité homme-femme. Vous avez le véganisme, l'écologie et le réchauffement climatique, la responsabilité virale, la question du vaccin, le body positivity, les scores ISG, ESG, qui sont en train de contaminer la bourse. Et toutes ces sous-catégories, toutes ces sous-religions sont en train de jouer comme des forces de contrôle, comme des millefeuilles administratifs qui sont en train de changer nos comportements, nos vies, et qui sont en train d'altérer nos libertés au quotidien. Tout d'abord, pour commencer, il y a la question du racisme, la question des minorités, qui a été largement médiatisée avec les Black Lives Matter, qui au final est un problème américain qu'on a essayé d'importer en Europe. Faut arrêter de déconner. En Europe, on n'a pas la même histoire avec l'esclavage. On n'a pas connu d'esclavage sur le territoire européen. Les minorités qui sont présentes en Europe sont issues de l'immigration, l'immigration du travail et pas de l'esclavage. Donc j'ai toujours trouvé cette importation du problème Black Lives Matter en Europe assez absurde. Et surtout que je considère que le racisme n'est plus un sujet aujourd'hui. Il faut arrêter de déconner, que ce soit en France, en Europe d'une façon générale, aux États-Unis. Le racisme n'est plus un problème. Il faut arrêter. On n'est plus dans les années 60 ou dans les années 50 où ça avait peut-être du sens, même ça avait beaucoup de sens de se battre pour les droits civiques à l'époque, à une époque où aux États-Unis, blancs et noirs n'avaient pas les mêmes droits, n'avaient pas les mêmes papiers d'identité, n'avaient pas les mêmes accès aux mêmes endroits. Il y avait des bus pour les blancs, des bus pour les noirs. Des trottoirs pour les blancs, des trottoirs pour les noirs, des endroits où les noirs ne pouvaient pas aller. D'accord, cette époque a existé et à cette époque, le combat pour les droits civiques avait un sens. Aujourd'hui, faut être réaliste, aux États-Unis, blancs descendants d'Européens et afro-américains sont égaux face à la justice, face à l'administration. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton origine, t'as le même passeport américain, t'as le même accès aux prêts bancaires, t'as le même accès au travail. Tout dépend de ta compétence, de ton intelligence. Faut arrêter de déconner, on n'est plus à une époque où t'avais pas le droit de monter dans le bus. Cette époque a existé, elle est malheureuse, mais elle a disparu. Et voir les Black Lives Matter se battre pour les droits civiques comme si on était dans les années 50, je vous avoue que c'est un truc qui m'échappe. Je dirais que s'il y a un pays encore dans le monde où le racisme existe, c'est l'Afrique du Sud. D'accord, en Afrique du Sud, il y a encore des vrais problèmes de racisme. Et dans les deux sens, il y a des Africains qui se font buter par des Blancs, et il y a aussi des Blancs qui se font massacrer à la machette par des Africains. Il y a un vrai problème en Afrique du Sud, ça ne s'arrange pas, c'est même en train de partir en couille, mais c'est propre à l'Afrique du Sud, c'est une autre histoire, c'est une autre culture, c'est une autre façon de voir le monde. Et c'est vraiment le seul endroit où la question du racisme est encore authentique, où les tensions entre blancs et africains sont encore identiques à ce qu'elles pouvaient être il y a un siècle ou deux. Et d'ailleurs, si vous avez prévu d'aller en vacances en Afrique du Sud, je vous le déconseille fortement, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez blanc ou descendant d'Africains, même métis, hein, tout ce que vous voulez. Éviter parce que dans les deux cas, tu vas te faire buter. Si t'es blanc, tu vas te faire massacrer à la machette. Si t'es noir, tu vas par erreur entrer sur un champ ou une propriété privée, tu vas te prendre une balle dans la tête. L'Afrique du Sud, c'est un pays de merde. C'est un pays magnifique, c'est un pays très beau. Mais en ce moment, c'est un pays de merde que je vous déconseille très fortement. Quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre couleur de peau, vous allez vous faire massacrer par un camp ou par l'autre. Et j'aimerais revenir sur cette question des minorités, parce que c'est vrai qu'on parle des minorités, on définit tout ce qui n'est pas blanc comme une minorité. J'aimerais rappeler quand même qu'à l'échelle planétaire, les chiffres nous racontent autre chose. Sur Terre, on a 1,4 milliard de Chinois, 1,3 milliard d'Indiens, 1,2 milliard d'Africains, 700 millions d'habitants d'Asiatiques en Asie du Sud-Est, 700 millions d'habitants en Amérique latine. Et il faut savoir que les Blancs sur Terre, d'une façon générale, sont ou représentent 1,2 milliard d'habitants, et les Blonds, donc les Blancs aux cheveux blonds et aux yeux clairs, représentent 250 millions d'habitants. Donc la minorité à l'échelle planétaire, c'est les Blonds. C'est pas les Africains, c'est pas les Asiates, c'est pas les Indiens, c'est pas toutes les ethnies qu'on décrit comme minorités. Et pour résumer un peu la chose, les Asiatiques représentent l'écrasante majorité de la population, 3,5 milliards d'habitants, si on considère comme Asiatiques les Chinois, les Indiens et l'Asie du Sud-Est. Donc l'écrasante majorité de l'humanité est asiatique et tous les autres sont à proportion égale, 1,5 milliard d'Africains, 1,5 milliard de Blancs, Blancs, j'ai envie de dire, toute origine confondue, Blancs européens, Blancs d'Amérique latine, qui sont aussi des descendants d'Européens, Blancs d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Russie, d'Europe centrale. Les Blancs, d'une façon générale, représentent 1,2 milliard d'habitants, ce qui n'est pas du tout la majorité. Donc faut bien comprendre que lorsqu'on parle de minorité, on parle de minorité relative. Les Africains sont une minorité en Europe. Les Asiatiques sont une minorité en Europe. Et c'est normal, comme les Européens sont une minorité en Afrique, comme les Suédois sont une minorité en Afrique subsaharienne. Vous ne vous attendez tout de même pas à trouver une majorité d'Africains en Europe et une majorité d'Européens en Afrique. Ça n'est pas logique. Donc je ne comprends même pas pourquoi on définit la minorité comme quelque chose qu'il faut défendre, qu'il faut protéger. La minorité est une minorité pour une raison. On a une région géographique, l'Europe, qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années avec une population autochtone blanche. Ensuite, on a eu la révolution industrielle, la colonisation, l'immigration qui a suivi. Des populations extra-européennes sont venues vivre en Europe et elles sont en nombre minoritaires. C'est la normalité. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Je ne vois pas ce qu'il y a à défendre là-dedans ou à aider là-dedans. Et à ce niveau-là, le combat woke m'échappe un peu lorsque les woke vous disent il n'y a pas assez de minorités dans les conseils d'administration ou il n'y a pas assez de minorités dans les universités. Oui, mais c'est statistiquement une minorité, donc forcément il y en aura moins partout. Je sais que les woke, pour la plupart, sont par la nature des choses des quotients intellectuels inférieurs, mais quand même, c'est un minimum de logique à avoir et même pas besoin d'être un génie en statistique ou en mathématiques. Ça coule de source. T'es minoritaire dans la population, donc t'es minoritaire dans les conseils d'administration. Tu représentes 1% de la population, donc tu représentes 1% des patrons. Ou un peu moins, ou un peu plus. T'es minoritaire dans la population, t'es minoritaire dans les universités, dans les classes d'école. Je ne vois pas, je comprends pas ce que cherchent ces gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais vous comprendrez que dans ce sujet, il ne s'agit pas de faire preuve de logique, de bon sens. On est dans de la manipulation poussée, encouragée par les politiciens. On est dans de la création de faux problèmes parce qu'on n'arrive plus à s'occuper des vrais problèmes. Et c'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est que tous ces petits mouvements qui naissent à droite à gauche, la lutte pour le droit des femmes, la lutte pour le droit des minorités, des LGBT, des non-binaires, sont autant de feux de paille que nos politiciens et leurs relais médiatiques allument parce qu'ils n'ont plus le vrai pouvoir. C'est quoi le vrai pouvoir? Le pouvoir économique, le pouvoir de gouverner. Ce pouvoir a été transféré aux banques centrales, ce pouvoir a été transféré aux technocrates, et les politiciens n'ont plus vraiment aucun réel pouvoir, et c'est pour ça qu'ils vont s'occuper de ces petites choses sociétales, et ils vont donner l'illusion qu'ils font quelque chose parce que le vrai pouvoir, ils ne l'ont pas. Et un récent événement d'actualité illustre très bien cette chose. Vous savez que le Premier ministre britannique, Liz Truss, s'est faite virer. Alors elle a démissionné, mais vous savez comment ça se passe. On l'a dégagée. Elle s'est faite dégager par les banquiers centraux et par la City de Londres. Pourquoi? Parce que son programme était de la merde. Son programme économique était de la merde. Pour résumer la chose, elle s'est lancée dans un projet de baisse d'impôts, de baisse drastique d'impôts qu'on aurait pu saluer, mais elle le fait dans un contexte d'inflation. Et elle a envoyé le signal en baissant les impôts, ou du moins en annonçant un projet de baisse d'impôts, elle a envoyé le signal que l'inflation allait exploser. Inflation qui est déjà à 10%, parce que baisser les impôts, ça augmente le pouvoir d'achat, ça fait exploser l'inflation. Donc la City, Wall Street ont commencé à larguer les bons du Trésor britannique, les obligations britanniques, qui se sont effondrées. Et vous savez que les retraites sont en partie payées par ces bons du Trésor. Ça constitue un peu la partie solide des fonds de pension qui payent les retraites. Encore une fois, c'est une aberration. C'est souvent les gens naïfs, les vieux retraités, qui laissent les fonds de pension gérer leur retraite. Moi, je conseille à chacun de gérer sa propre retraite et de faire sa propre répartition. Sauf que les petits gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, laissent ces fonds de pension gérer. Ces fonds de pension sont encouragés par l'État britannique à acheter des obligations britanniques, donc ils se sont gavés d'obligations britanniques. Tu as des retraités qui avaient 40% de leur retraite constituée d'obligations britanniques. Et quand l'obligation se pète la gueule, ça veut dire que le mois prochain, ben, tu toucheras rien. En voyant la chose arriver, en voyant des millions de retraités qui ne pourront pas se nourrir et payer leur loyer le mois suivant, la Banque centrale d'Angleterre est intervenue, a acheté des bons du Trésor, des obligations britanniques en masse, ce qu'on appelle des gilts, pour que ça remonte un peu, pour que leur valeur remonte un peu et éviter la catastrophe. Et c'est comme ça que Liz Truss se fait dégager, se fait virer par la City, par Wall Street. Et j'ai envie de dire que pour le coup, je ne considère pas que c'est un truc négatif. Pour le coup, la City a fait preuve de plus de raison et de logique que les politicards. Liz Truss a fait de la merde, elle a voulu faire plus libéral que les libéraux, elle a voulu faire plus libéral que Wall Street, et la City et la banque, d'une façon générale, lui ont dit « Non, non, arrête de déconner, ne baisse pas les impôts, nous ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'inflation. » Vous imaginez, il faut le faire quand même, des financiers qui font preuve de moins de libéralisme qu'une politicarde. Des financiers de la City qui disent à la politicarde « Fais gaffe, tu vas faire exploser l'inflation et nous, on va te dégager si tu continues. » Les politiciens sont devenus de telles merdes qu'aujourd'hui, les banquiers font preuve de plus de raison et de contrôle et sont plus inquiets de voir l'inflation exploser que de pousser un agenda libéral. Parce qu'on aurait pu se dire, c'est des banquiers. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pousser la baisse d'impôts, le libéralisme à fond. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Ce que cherchent les banquiers, d'accord, c'est de s'enrichir, mais ne pas s'enrichir au prix de l'explosion du système. Si on arrive à s'en foutre plein les poches sans faire exploser le système, c'est tout de même un peu mieux. Hein, si on se lance dans une politique libérale agressive et que derrière il y a des émeutes dans la rue parce que les retraités n'arrivent plus à bouffer et n'arrivent plus à payer, à s'alimenter correctement, ça n'a aucun sens. Donc les politiciens n'ont plus de pouvoir et je ne sais pas si c'est si mal que ça au final. Ils font de la merde, ils sont incompétents et beaucoup de technocrates aujourd'hui font preuve de plus de bon sens que certains politiciens. C'est pour ça que je pense que depuis un certain temps, la démocratie est morte. La majorité des candidats qu'on nous présente sont les mêmes. Alors ils vont être un peu plus rouges ou un peu plus bleus, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Mais au final, ils sont sélectionnés, présélectionnés. Et ils sont là pour vous vendre la même tambouille. Ce sont les banquiers centraux qui gouvernent, ce sont des technocrates qui gouvernent. Et quand je vois ce que fait Liz Truss, quand je vois la merde que produisent les politicards en ce moment, je ne sais pas si c'est si grave que ça, je ne sais même pas si on a perdu au change. En tout cas, pour le cas du Royaume-Uni, les banquiers ont fait preuve de beaucoup plus de bon sens et de rationalité que les politiciens du Parti conservateur. Mais tout ça pour dire que, comme les politicards n'ont plus de réel pouvoir, ils brodent, ils ne font que broder, et donc ils s'intéressent aux questions des minorités et du racisme, aux questions LGBT, aux questions de genre. Alors, ils vont discuter à l'Assemblée de est-ce qu'il faut intégrer la mention non-binaire comme une mention légale ? Est-ce que sur les formulaires, maintenant, il faut mettre « monsieur »,« madame » et, je sais pas, « eux » ou bien une mention non-binaire ? Et ça va pinailler sur ça à l'Assemblée pendant des heures. Et ça sera jamais suffisant parce qu'on est dans la folie. Une fois que tu as validé ça, ben tu as quelqu'un qui va arriver, qui va te dire « Alors moi, je me sens lampadaire, moi, je me sens table, donc il faudrait ajouter madame, monsieur, eux, non-binaire, table, chaise, lampadaire, chou-fleur. Vous avez compris qu'on est dans le délire et c'est aussi symptomatique de notre monde. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a donné la parole à des fous. Dans un monde normal, un gamin qui te dit « Papa, je me sens femme », tu lui donnes deux tartes dans sa gueule. Et là, je ne parle pas d'homosexualité, là, je parle de biologie. Tu peux te sentir ce que tu veux dans ta tête, mais biologiquement, t'es quelque chose. T'es un homme ou t'es une femme, biologiquement. Encore une fois, pas de jugement de valeur, tu veux te sentir chou-fleur, lampadaire, table, pied de table, ou ce que tu veux, c'est ton problème, mouchoir en papier, tu fais ce que tu veux. Mais biologiquement, t'existes bien, qu'est-ce que t'as entre les jambes? T'as une paire de couilles et un pénis ou t'as un vagin? T'existes bien biologiquement, arrête de t'inventer des histoires. Tu te sens ce que tu veux, c'est ton problème. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de ramener ces gens à la raison, on les encourage dans leur folie. On va les encourager à prendre des hormones pour modifier leur apparence. On va les aider à passer sous le bistouri, à se faire opérer pour changer de sexe. Avec tous les dégâts qu'on a pu observer avec des adolescents qui réalisent quelques années plus tard que c'était une erreur, que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Les gamins traversaient une crise existentielle, ils ont eu ce petit moment où ils ont voulu changer de sexe. Toi, tu les as encouragés en tant que parent, tu les as emmenés dans une clinique, ils se sont gavés d'hormones, ça a changé leur physionomie, leur cerveau, la chimie de leur cerveau. Ils se sont fait opérer, puis réalisent quelques années que merde, c'était juste une crise, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai foutu? D'ailleurs, il y a des cliniques en Suède qui ont rétro-pédalé sur la question, qui ont été confrontées à ces regrets, à ces gens qui sont venus les voir en disant c'est une erreur, on a fait une bêtise, et du coup, ils ont retardé maintenant l'âge à partir duquel on pouvait donner des hormones à des personnes qui souhaitaient changer de sexualité. Et ça, je pense, était repoussé même à la majorité. On ne devrait pas laisser des adolescents prendre des décisions aussi importantes que celle de changer de sexe. L'adolescent est par essence en crise. Il se cherche, il ne sait pas qui il est. Sur une simple crise existentielle, aller le gaver de chimie, d'hormones et le faire opérer, c'est un crime, c'est dramatique. Laisse-le au moins atteindre 18 ans, laisse-le au moins devenir majeur, ou laisse-la au moins devenir majeur, et ensuite tu fais ce que tu veux. C'est un peu le bon sens des darons de l'époque. Quand tu commences à faire le con, en général, c'est ce que faisait mon père, il me disait, écoute, t'es sous mon toit, t'es logé, nourri, le jour où tu seras indépendant, que tu paieras ton loyer, tu feras ce que tu veux. Mais en tout cas, tant que c'est moi qui paye, tu fermes ta gueule. Bon, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Il avait raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et la liste continue, l'égalité homme-femme, le mensonge sur l'égalité ou l'inégalité des salaires. On nous explique que les femmes gagnent moins que les hommes. Encore une fois, une connerie, une bêtise. À métier égal, hommes et femmes gagnent le même salaire. Arrêtez de déconner. Enseignants, hommes-femmes gagnent le même salaire. Médecins, hommes-femmes gagnent le même salaire. Mais en moyenne, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes font des métiers difficiles qui rémunèrent mieux. Le métier de soudeur rémunère très bien, surtout si tu es spécialisé, si tu as une surspécialité, si tu soudes sous l'eau, si tu soudes dans un sous-marin, tu peux très bien gagner ta vie. Il y a combien de femmes qui font soudeur ? Zéro, aucune, c'est extrêmement rare. Mesdames, si vous voulez gagner de la thune, arrêtez de faire psychologie et allez faire soudeur. Soudeur, allez faire informatique, apprenez à coder sur Python, là vous allez gagner de la thune. Mais c'est que des hommes qui font ça. Donc forcément, les hommes gagnent plus d'argent que vous. Ils sont plus nombreux dans les universités de mathématiques, dans les facultés de mathématiques, de physique. Les sciences dures rémunèrent mieux. Donc ça fait de la psycho, de la socio, des filières suicides, des filières de merde. Et après, ça vient pleurnicher quand ça gagne pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez-vous dans les filières qui rapportent du fric et vous gagnerez du fric. Le wokisme a même contaminé l'alimentation au travers du véganisme. Maintenant, tu as des gens qui ne supportent même pas l'odeur de la viande. Tu es dans un resto, tu manges de la viande à côté, ils vont dire non, je suis désolé, moi je suis vegan, tu ne peux pas manger de la viande en face de moi. Tu lui réponds, mais c'est moi qui mange la viande. C'est quoi, c'est l'odeur? T'es sérieux là? C'est l'odeur? Tu supportes pas l'odeur de la viande? Moi, je pensais que le véganisme, c'était juste ne pas consommer de la viande. Mais sentir l'odeur, c'est pas... Qu'est-ce qui t'arrive? Donc bientôt dans les restos, il y aura des compartiments. Comme ça, les véganes pourront manger à côté, loin des odeurs de viande. Et les consommateurs de viande, les méchants, ceux qui polluent la planète, on va vous sortir encore. Tu sais combien ça coûte produire 1 kilo de viande? Tu sais combien ça consomme en eau? Mais ferme ta gueule, arrête de me casser les couilles. Mais voilà, c'est une vraie dictature maintenant. On va te culpabiliser, ça a déjà commencé. On te culpabilise parce que tu manges de la viande. T'es un méchant, t'es un pollueur. T'as envie de lui dire, moi je mange un steak, je suis un pollueur, les 1 milliard et demi de Chinois là et les 1 milliard et demi d'Indiens, ça te traumatise pas ça. Il n'y a que mon steak qui te traumatise. Il y a du wokisme viral, on a connu du wokisme pendant la période du fameux virus où les gens se surveillaient entre eux, mets ton masque, remonte le masque sur ton nez. Je me rappelle une fois, j'étais dans le tube et il y a quelqu'un qui me regardait, qui me disait couvre ton nez, il me faisait un geste comme ça parce que je mettais le masque. Je mettais le masque, je me couvrais pas le nez, je sais, c'est pas bien, mais ça me saoulait. Ça me saoulait, j'avais du mal à respirer, le truc il collait et tout, donc je laissais toujours le nez sortir comme ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de gens le font, parce que ça les saoule. Et le mec, il me fait le geste comme ça, remonte, mets le masque sur ton nez. J'avais envie de lui dire, mais déjà, pourquoi tu me regardes? Si t'as remarqué que j'avais le masque sous le nez, c'est que tu me regardes. Pourquoi tu me regardes déjà? À la base, t'as pas autre chose à faire, t'as pas le journal à lire, t'as pas tes pieds à regarder? Je t'ai rien demandé, t'es de l'autre bout de la rame, et la seule chose qui t'intéresse, c'est le masque, s'il est sur mon nez ou pas sur mon nez. Et j'ai l'impression que cette question du virus et du confinement a permis à plein de fous d'exister. Des gens à qui personne ne parlait, parce que ce mec, dans une vie normale, dans un monde normal, je lui adresse pas la parole, je lui parle pas. Il n'y a pas de communication normalement, c'est pas, je le connais pas, il m'intéresse pas, et en plus c'est un cinglé, c'est un hystérique des masques. Donc, on risque pas de se croiser et de se parler, on n'appartient pas au même monde. C'est un hystérique de la camisole, et moi je suis un peu plus libéral, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça a permis à plein de gens d'exister, à plein de gens qui n'avaient pas la parole dans la vie réelle, à plein de gens qui étaient complètement effacés, de se donner une espèce de lutte. Ils se sont inventés au travers du masque une lutte, c'est devenu des guerriers du masque à épier, à regarder, à surveiller tous ceux qui ne portaient pas très bien leur masque, en dessous de la lèvre, au-dessus de la lèvre, sous le nez, au-dessus du nez, attention, mets ton masque. Et il y a plein de gens pour qui c'est devenu vraiment une lutte et qui doivent être tristes aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus ce truc à faire. Ils doivent vraiment s'emmerder maintenant qu'il n'y a plus personne à surveiller, qu'il n'y a plus personne à regarder. Et le dernier truc en date qui a même contaminé la bourse, c'est les indices ESG, ESG. Maintenant, il y a des actions, des entreprises qui sont considérées comme éthiques, comme développement durable et qui ont le droit d'entrer dans certains indices boursiers et d'autres qui en sont exclus. Et ça permet aussi d'imposer une espèce de dictature de la bien-pensance, même au niveau des marchés, même le libéralisme, le capitalisme est en train d'être contaminé par le contrôle, par le wokisme. Avec bien sûr toujours cet aspect religieux, parce que tout ça, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Faut bien comprendre qu'on est dans la religion de la voiture électrique qui polluerait moins que les voitures conventionnelles. Alors que lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on regarde un peu la production, tout le cycle de production de la voiture électrique, on comprend très bien que ben, le lithium, ça ne tombe pas du ciel, qu'il faut l'extraire, que c'est extrêmement polluant, ça pollue les eaux, ça pollue les airs, que les quantités de cuivre nécessaires à la fabrication d'une voiture électrique et à la fabrication des réseaux de tous ces câbles qui vont alimenter les bornes est phénoménale. Le cuivre aussi, ça s'extrait, ça ne tombe pas du ciel. Et la mise en place de la voiture électrique à l'échelle planétaire n'est pas nécessairement une amélioration par rapport aux hydrocarbures ou aux énergies fossiles. On va simplement passer du pétrole au lithium, du gaz au cuivre, et tout ça, c'est des matières premières, c'est des matières qu'on extrait du sol, qui n'existent pas en quantité illimitée, même s'il y en a beaucoup, et finalement on sera un jour confronté avec le lithium et avec le cuivre, peut-être au même problème qu'on rencontre avec le pétrole et avec le gaz. On est toujours, quoi qu'il arrive, dans du fini. Il n'y a rien d'illimité, il n'y a rien de renouvelable. À chaque fois qu'on fabrique quelque chose, on le fabrique avec des matières premières qui existent en quantité limitée sur Terre. À moins qu'on arrive à aller extraire tout ça sur Mars ou sur une autre planète, pour l'instant, on est cantonné à ce qu'on trouve sur Terre. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans le rationnel, on est dans la religion de la voiture électrique, la religion de l'éolienne, du moulin à vent, la religion du panneau solaire. On essaye de nous convaincre que tout ça, ça fonctionne, qu'on est prêt, que ça y est, les énergies renouvelables, et on réalise que dès que les Russes coupent le gaz, il n'y a plus rien, l'économie allemande s'effondre, il n'y a plus rien qui fonctionne, et que les éoliennes et les panneaux solaires, c'était des conneries. Les panneaux solaires en Allemagne, il fallait vraiment le faire. Faut pas être un génie pour comprendre que niveau soleil, c'est pas là-bas que ça se passe. Et pour illustrer l'absurdité du wokisme, je voulais faire un petit exercice qui consisterait à inverser les rôles. Vous savez que les woke considèrent que il faut mettre plus de diversité dans les conseils d'administration, il faut mettre plus de diversité là où il n'y en a pas, ou dans les secteurs qui sont dominés par les blancs. Et si on faisait l'inverse, et qu'on mettait aussi de la diversité blanche dans les secteurs qui sont dominés par les descendants d'Africains, par exemple le jazz, l'athlétisme, le basket. On va dire par exemple que le jazz est une musique dominée par les Noirs et donc il faudrait un quota de blancs. Il faudrait dans chaque groupe de jazz mettre des blancs. L'athlétisme, le 100 mètres par exemple, au départ du 100 mètres, vous regardez le départ, c'est essentiellement du descendant d'Africain. Alors qu'il soit britannique, américain, jamaïcain, c'est toujours des descendants d'Africains. Dans le basket, pareil. Et donc, on va dire, au départ du 100 mètres, eh bien, il faudrait maintenant 4 blancs et 4 Africains. Dans les équipes de basket américaines, il faudrait 50% de blancs. Avant même que je finisse mon développement, vous avez déjà compris l'absurdité de la chose. Vous savez que moi, je considère qu'on a tous un avantage compétitif dans la vie. Cet avantage, il peut être technique, cet avantage, il peut être athlétique. Et on affronte tous la vie avec les avantages génétiques que nous a donné la nature. Et pour revenir au jazz, pourquoi c'est une musique exclusivement dominée par les Noirs ou par les Afro-Américains ou par les descendants d'Africains? C'est parce que ça demande une compétence qui s'appelle l'improvisation, dont seuls les Africains sont pourvus. Il y a des Blancs qui ont essayé de faire du jazz. Ils y arrivent. Partiellement, ils arrivent à être techniques, ils arrivent à être précis, mais jamais ils n'arrivent à reproduire l'intuition et les solos des jazzmen afro-américains. Pourquoi ? C'est ma conviction, je pense que c'est une question de génétique. L'intuition que va avoir un jazzman qui va se lancer dans un live, dans une impro extraordinaire, c'est quelque chose que ne peut pas faire le blanc, c'est quelque chose que ne peut pas faire l'allemand. Par exemple. Et le jazz, c'est une musique que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce qu'au départ, j'écoutais des albums de jazz chez moi, sur YouTube et en CD avant ça. Je trouvais ça très bien, j'aimais beaucoup, mais je n'arrivais pas à comprendre toute la hype autour du jazz. Je me disais toujours, mais pourquoi cette obsession des blancs pour le jazz? Par exemple, dans tous les films de Woody Allen, vous avez plein de morceaux de jazz, ça parle tout le temps de jazz. Et puis, quand je suis arrivé à Londres, j'ai commencé à aller à des concerts de jazz, notamment lors du festival du jazz qui se déroule la troisième semaine de novembre tous les ans. Et donc pendant une semaine, vous avez des concerts de jazz partout à Londres. Et je me souviens encore, j'étais allé voir un concert d'un groupe qui reprenait un morceau de Pharoah Sanders qui s'intitule « Upper Egypt and Lower Egypt », l'Égypte du haut et l'Égypte du bas. Et à un moment, le groupe se lance dans une improvisation incroyable, mais un truc, c'était d'un autre monde. Ils étaient en transe, ils étaient partis, ils avaient décollé, ils n'étaient plus avec nous. Et moi qui avais écouté ce morceau, cet album sur YouTube, la version originale, je la redécouvrais en live Et c'était sublime, c'était d'un autre niveau. Le début était similaire, mais l'impro sur la fin, c'était une autre dimension. Et j'ai compris en fait que la grandeur du jazz, c'était le live. Si t'écoutes du jazz chez toi en album, t'as rien compris. Tu ne peux pas saisir le génie du jazz si tu ne l'écoutes pas en live et si tu n'assistes pas à toutes ces improvisations. Et j'ai aussi compris pourquoi c'était les Afro-Américains qui dominaient cette discipline. C'est parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est dans les gènes, c'est dans le sang, c'est dans les tripes, chez l'Afro-Américain, que ne peut pas reproduire l'Européen. Un Allemand peut apprendre à danser la salsa pendant 10 ans, il ne dansera jamais aussi bien qu'un Cubain de 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la culture, il a vu ses grands-parents danser, ses parents danser, toute sa famille danse. Et le jazz est une musique d'Afro-Américain qui doit rester une musique d'Afro-Américain. Si on veut devenir ou faire le woke et commencer à imposer des quotas dans le jazz en disant ce n'est pas possible, il faut que tout le monde soit représenté dans le jazz et donc on va mettre deux musiciens blancs pour équilibrer un peu la chose, t'as tué le jazz. Alors ce que je dis, c'est de la science-fiction, il n'y aura jamais de wokisme inversé qui va imposer des blancs dans les groupes de jazz. Mais essayez de comprendre la logique, j'essaye d'inverser les choses pour que vous compreniez la bêtise de cette idée des quotas. Pareil pour le départ du 100 mètres, imaginez qu'on imposait qu'il y ait 4 blancs, donc 4 africains et 4 blancs, ou 4 descendants d'africains, ou 4 noirs et 4 blancs au départ du 100 mètres. Pour équilibrer la chose, parce qu'on a constaté que les blancs n'arrivaient pas en finale du 100 mètres. Est-ce que vous imaginez ce que deviendra ou ce que deviendrait cette discipline? L'Africain a un avantage athlétique sur le blanc. Les finales du 100 mètres seront toujours constituées à 100% d'Africains, qu'ils soient Jamaïcains, Britanniques, Américains, peu importe, mais ça sera toujours du descendant d'Africains. Parce que c'est la génétique qui le veut. Si tu veux tuer la discipline, eh bien commence à imposer des quotas et t'as tué l'athlétisme. Pareil pour le basket, pareil pour l'informatique. Aujourd'hui, si vous allez chez Google, par exemple, vous regardez le plateau Google de tous les codeurs, tous les développeurs, c'est que du chinois, de l'indien et du pakistanais. Vous pensez que vous pourrez aller voir Google en disant « je veux de la proportionnelle, je veux qu'on intègre un peu de blanc chez vous ». Que va te répondre Google ? On veut bien, mais il n'y en a pas. À chaque fois qu'on cherche des développeurs, c'est de l'Indien, du Pakistanais, du Chinois. Il n'y a plus de blancs qui codent, ou pas suffisamment. Il y a d'ailleurs une très belle anecdote qui a été reprise dans le livre d'Isaacson, dans la biographie qu'il faisait de Steve Jobs. Il rapportait un échange entre Obama et Steve Jobs. Obama, l'hypocrite démocrate, qui dit à Steve Jobs « Écoute, il serait bien que tu rapatries tes industries, que tu fabriques Apple aux États-Unis, que tu fabriques les iPhones aux États-Unis. » Et Steve Jobs lui répond « Mais vous savez, c'est pas uniquement une question de coût ou une question d'usine, c'est aussi une question d'ingénieur. Pour faire tourner mes usines Apple, et ça c'est une réalité hein, qui a été, c'est un discours, c'est un échange qui a été retranscrit dans la biographie, Steve Jobs dit, pour faire tourner mes usines en Chine, j'ai besoin de 50 000 ingénieurs. En Chine, je les trouve, ces 50 000 ingénieurs, je les trouve. Aux États-Unis, si demain je rapatrie mes usines, je ne peux pas embaucher 50 000 ingénieurs, il n'y en a pas. Vos universités de gauchias ne forment plus d'ingénieurs. La Chine forme des ingénieurs, l'Inde forme des ingénieurs, même le Pakistan forme des ingénieurs. Les États-Unis n'en forment pas suffisamment, l'Europe n'en forme pas suffisamment. Notre jeunesse s'est lancée dans des études de psycho, de sociaux, d'histoire, de sciences molles, de filières suicides pendant des années. On n'a plus formé d'ingénieurs. Aujourd'hui en France, on manque d'ingénieurs en nucléaire. On veut relancer la filière nucléaire suite à la crise russe et on ne trouve pas suffisamment d'ingénieurs. Vous imaginez le drame, la France, pays qui était en pointe dans le nucléaire, n'a pas suffisamment d'ingénieurs en nucléaire. Donc l'histoire de il y a trop d'ingénieurs chinois, trop d'ingénieurs indiens chez Google, d'ailleurs le CEO de Google aujourd'hui est un indien, et la raison elle est simple, c'est que l'Amérique, les États-Unis l'Europe n'ont plus formé d'ingénieurs pendant des années, alors que la Chine, qui avait compris l'intérêt de l'intelligence artificielle, qui avait compris que les enjeux de demain, c'était les enjeux du savoir, des sciences dures, des mathématiques et de la physique, a formé des ingénieurs. Et c'est aussi des pays de la raison. Un pays comme l'Inde, c'est pas un pays woke, c'est pas un pays où on est perché à produire des idées dogmatiques. L'Inde, c'est un pays du concret. Des parents indiens vont te pousser à faire informatique parce qu'ils savent que c'est ton seul moyen de gagner 150, 200, 300K et d'aller bosser chez Google, chez Meta, chez Tesla, etc. Une mère ou un père indien à qui tu dis « je vais faire des études de psycho », tu vas finir avec des savates dans ta gueule, tu vas comprendre ta douleur. C'est hors de question. Quand quand tu grandis dans une famille indienne, tu fais médecin, tu fais dentiste, tu fais informaticien, tu fais ingénieur. Tu fais pas histoire de l'art. Tu fais pas psycho, tu fais pas socio. Pareil en Afrique du Nord, pareil au Moyen-Orient, t'annonces à tes parents que tu veux faire histoire, ça va se finir à coups de babouche dans ta gueule. Pourquoi ? Parce que ils savent très bien que la réalité du monde, c'est pas ça. Ils savent très bien que les gens qui gagnent du fric, c'est les médecins, c'est les dentistes, c'est les chirurgiens, c'est les développeurs, c'est les ingénieurs, c'est les informaticiens. C'est ces gens-là qui gagnent de la thune. Les branleries d'histoire de l'art, de sociaux, de psycho, de diplômes du genre. Il y a des masters en genre aujourd'hui. Pendant 5 ans, tu vas apprendre qu'est-ce qu'un non-binaire. Et à la fin, on te donne un diplôme. Je me demande qu'est-ce que tu peux apprendre dans un master d'études du genre. Tu vas te trifouiller l'anus pendant 5 ans, tu vas finir au chômage. Il n'y a qu'en Europe, il n'y a qu'en Occident où tu vois ce genre de choses. T'imagines un Indien ou un Chinois faire un master en genre, en études du genre ? Il va se faire renier par sa famille. Il va se faire renier par la tribu. Il finit à la rue, le mec. Et voilà pourquoi, pour revenir au titre de ce podcast, je pense que le wokisme est dangereux. Je pense que c'est un danger parce que le wokisme annihile les avantages compétitifs. Il tend à vouloir lisser l'humanité pour en faire une masse de zombies homogènes. Pourquoi ? Parce que la richesse de l'humanité, c'est notre diversité. C'est comme ça, que tu le veuilles ou pas. Il y a des mecs intelligents, des mecs moins intelligents. Il y a des grands, des petits, des riches, des pauvres. Des gens qui ont un avantage technique, qui ont un quotient intellectuel élevé. D'autres qui ont un avantage physique, athlétique. Et c'est ça l'humanité, c'est ça la vraie diversité. Vouloir intégrer des quotas pour rééquilibrer soi-disant les choses, c'est par essence anti-diversité. Si l'afro-américain est bon en jazz, que c'est son truc, laisse-le faire, ne lui impose pas de quotas. Si le chinois, si l'indien est bon en informatique, c'est son truc, c'est son kiff, n'impose pas de quotas à Google ou à qui que ce soit. Si l'allemand est un technicien et qu'il est dominant et qu'il finit par être chef dans toutes les usines de voitures, qu'il finit par être ingénieur en automobile, que tous les ingénieurs automobiles soient allemands, ainsi soit-il. Les mecs, c'est leur kiff. Est-ce que tu as envie d'être allemand ? Personnellement, moi, je n'ai pas envie d'être allemand. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des Allemands, que c'est très bien qu'ils soient dominants dans le secteur de l'automobile et dans les machines-outils, mais honnêtement, qui a envie d'être allemand ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse d'aller passer vos vacances en Allemagne ? L'Allemagne, c'est un pays qui est fascinant par sa technicité, par son intelligence, par son génie, par son ingéniosité, mais l'Allemagne, c'est pas un pays où tu as envie d'aller en vacances, sauf peut-être pour aller voir des putes parce que c'est légal là-bas, ou pour aller faire la fête parce qu'ils savent aussi faire la fête. Mais quand tu penses aux vacances, tu penses à la Grèce, tu penses à l'Italie, tu penses à l'Espagne, tu penses, je sais pas, à l'Asie du Sud-Est, si tu veux être un peu plus exotique, mais tu ne penses pas à l'Allemagne. Donc, laissez aux Allemands leur avantage compétitif et exploitez votre propre avantage compétitif. Cette histoire de quotas et cette histoire de vouloir intégrer de la diversité partout, c'est par essence anti-diversité. Les woke détestent la diversité. Ils veulent lisser l'humanité, ils veulent que tout le monde soit pareil, ils veulent homogénéiser, ils veulent encore une fois transformer l'humanité en une masse de zombies homogènes, sans culture, ou du moins avec une seule culture et avec une seule religion, le wokisme. Et le wokisme, ne vous faites pas d'illusions, est un outil de contrôle. N'oubliez pas que tous ces millefeuilles administratifs qui s'ajoutent, les questions du genre, du LGBT, de l'égalité homme-femme, du véganisme, de l'écologie, du vaccin, de la responsabilité virale, des scores ESG dans la bourse, tout ça sont des outils de contrôle qui vous impose une façon de consommer, une façon de vous déplacer, une façon de vivre, qui vous impose une image du monde et qui réduisent vos libertés. Le wokisme est un outil de contrôle. On va t'imposer ce que tu as le droit de manger parce que la viande, c'est pas bien, donc faut que tu bouffes du tofu du matin au soir. On va t'imposer dans quoi tu vas investir parce que telle et telle entreprise n'a pas de score ESG et donc tu ne peux pas acheter cette entreprise même si elle te plaît, même si elle est performante. On va t'imposer des quotas dans ton entreprise et on va te dire que tu dois prendre tel et tel candidat parce que ça remplit ton quota d'égalité des races ou des minorités ou je ne sais pas quelle définition ou quelle terminologie on va trouver. On va t'imposer un quota d'hommes et de femmes. On va t'imposer un tas de choses et tout ça n'a qu'un seul but, c'est le contrôle. C'est une religion du contrôle. On est dans 1984. Le wokisme, c'est la police de la pensée. Bientôt, si les technologies évoluent et qu'on arrive à lire dans l'esprit des gens, tu pourras aller en prison pour une pensée. Même plus pour quelque chose que tu as prononcé, mais pour quelque chose ou une chose à laquelle tu as pensé. Et finalement, le wokisme, c'est le fameux Big Brother de 1984, mais c'est encore plus subtil parce que ce n'est pas une figure. La chose avec Big Brother, c'est que on le connaît, on le voit, il est identifié, donc on peut éventuellement se rebeller contre lui. Mais le wokisme, c'est simplement une série de contraintes. C'est une personne morale qu'on ne connaît pas, qu'on ne touche pas. C'est comme une entreprise. Vous savez, quand vous vous faites licencier aujourd'hui, on ne dit plus c'est moi qui vous licencie, mais c'est l'entreprise. Voilà, c'est l'entreprise, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, moi je veux bien te garder, etc. C'est-à-dire que l'entité responsable du contrôle est dématérialisée. La manif de demain n'aura jamais lieu parce que tu ne sauras plus contre qui manifester. Tu vas manifester contre quoi ? Contre l'écologie ? Contre le véganisme ? Contre les scores ESG ? Tu vas manifester contre l'égalité homme-femme ? Tu ne peux pas manifester contre ce genre de choses parce que c'est immatériel par essence. C'est pas une personne, c'est une série de contraintes qui vont complètement modifier et chambouler ta vie, ta façon de consommer, ta façon même d'exister. Et c'est pour ça que les politiciens encouragent tous les sujets woke. Tout d'abord parce qu'ils n'ont plus vraiment de vrais sujets à traiter. Hein. On leur a enlevé le vrai pouvoir, le pouvoir financier. Donc ils se rabattent sur ce genre de choses. Et aussi, c'est l'outil de contrôle par excellence. Ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Ce n'est que des outils de contrôle qui permettent d'imposer des comportements, qui permettent d'imposer des changements, qui permettent de pousser des agendas. Et au final, le wokisme défend autre chose que la diversité. Et pour conclure, je dirais même que le wokisme est en train de tuer la diversité en voulant lisser tout le monde, en voulant imposer des quotas partout, en voulant que tous les secteurs soient pareils, qu'ils contiennent, qu'ils comportent le même nombre de personnes de telle ou telle origine. Et ne vous y trompez pas. Sous couvert de défendre la diversité, le wokisme est en train de la tuer. Le wokisme est tout sauf un protecteur de la diversité. Le wokisme est en train de détruire les avantages des uns et des autres, des avantages génétiques, des avantages intellectuels, des avantages culturels qui font notre différence, qui font notre richesse, qui font la richesse de l'humanité. Le wokisme est en train d'aplanir et d'écraser tout ça pour qu'on soit tous pareils. Au final, un tube digestif, un consommateur, un zombie, une masse homogène de zombies, sans culture, sans histoire, sans racines. Le tube digestif parfait. Sous couvert de défendre la diversité, le wokisme est en train de la tuer. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.